RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui la sophrologue Laura Barthes-Martinez, sommes avec Zora Bitton, intervenante jeunesse, et puis nous sommes avec Emmanuel Devilliers, l'entrepreneur. Nos derniers sujets de discussion, là d'ici midi, tout à l'heure à midi moins 20, vous avez vu qu'à cause de la sécheresse, tous les maraîchers, les producteurs de fruits et légumes ont des récoltes qui sont malheureusement en deçà, qui souffrent de ce qu'ils auraient dû avoir à cause de la chaleur, à cause du manque de pluie, etc. Mais du côté des grandes surfaces, on dit on va leur acheter leurs légumes et leurs fruits moches, mais on va les vendre un petit peu plus cher. Ça leur permettra aussi de mieux vivre, de gagner un peu mieux leur vie. Mais est-ce que les Français dans les grandes surfaces vont acheter des fruits et des légumes moches un peu plus petits? Parce que c'est notre responsabilité aussi de consommateur. Venez en discuter, peut-être vous êtes agriculteur, acheteur, c'est tout à l'heure à midi moins 20. On reviendra à 11h20 sur la promulgation de la loi L'aide à mourir, qui crée le droit sur l'aide à mourir. Elle a été publiée au Journal officiel, elle a été promulguée par le président de la République, Emmanuel Macron. Est-ce que c'est vraiment une avancée pour notre société ou pas? Là aussi, dans un quart d'heure, vous venez en discuter avec nous. En attendant, on accueille notre invité.
RMC, face aux grandes gueules.
C'est le député de Haute-Garonne, Adrien Clouet, qui est avec nous. Bonjour, monsieur le député.
Bonjour, merci.
Vous partez pour la Drôme, ensuite?
Exactement, je pars tout à l'heure, parce que nous avons notre université d'été, les Amphis, qui sont déjà un énorme succès, puisqu'on a plus de 7000 inscrits. On est à deux fois plus que les années d'avant.
Et pendant, ça va durer 5 jours, c'est ça? 6 jours?
Un petit peu moins, on finit dimanche.
D'accord.
Donc c'est de jeudi à dimanche, mais avant il y a eu les Amphis jeunes, pour les moins de 25 ans.
Au total, ça a été une semaine, quoi, en fait, de discussion et débat. Mais il y a eu une polémique, vous avez vu, sur les droits d'entrée, soi-disant, vous faisiez des packages VIP aux Amphis, pour ceux qui ont les moyens, ils payent plus cher s'ils restent plusieurs jours. C'est vrai ou pas, ça, alors?
Ah, bah, forcément, plus vous restez longtemps, plus votre frais d'entrée pour participer à la logistique, il est important, c'est normal. Et puis, par ailleurs, c'est évidemment lié aux revenus individuel, c'est-à-dire ça va de pour les 3 jours, ça va de 35 euros à 400 minimum pour les très hauts revenus. Ça me semble normal, et c'est d'ailleurs ce qu'on fera comme réforme fiscale en France l'année prochaine.
Moi, je trouve ça génial, c'est qu'en fait, vous vous êtes enfin rendu compte chez LFI qu'on avait besoin des gens riches en France pour justement subventionner ceux qu'on avait moins. Mais c'est félicitations. Moi, je suis très ému que vous soyez rendu compte de
et
ça.
Dans ce cas-là, vous pouvez voter Jean-Luc Mélenchon parce qu'on aidera les gens riches à contribuer au collectif l'année prochaine en payant un peu plus d'impôts.
Ensuite, vous avez bien raison.
Sera le discours de coup d'envoi de l'élection présidentielle dimanche de Jean-Luc Mélenchon.
Alors, on a déjà évidemment envoyé l'élection présidentielle. Disons que l'objectif de se réunir là, comme tous les ans, hein, d'ailleurs, c'est bien sûr d'avoir un moment de réflexion, de travail collectif. C'est 7000 personnes qui viennent. Elles vont pouvoir assister à un peu plus d'une centaine de conférences et d'ateliers. On a 200 intervenantes et intervenants extérieurs dans le monde de la culture, dans le monde universitaire.
Il y aura du pluralisme. Il y aura du pluralisme ou il y aura que vos idées?
Ah bah, il y a toujours du pluralisme. Déjà, les invités extérieurs, on ne sait pas forcément ce qu'ils votent. On ne demande pas une carte de formation politique.
Quand même.
Il y aura des
même.
Débats sur différents sujets. Par exemple, il y aura un débat sur la sécurité civile avec des syndicalistes du monde des pompiers. Et il y aura des gens, je disais, du milieu de la culture. Vous aurez des écrivains, Éric Guillard, Pierre Lemaître. Vous avez Mami Wata qui a gagné Drag Race France. Bon, donc il y a un pluralisme intéressant de toutes les forces de la culture, du syndicat.
Le pluralisme de toute l'extrême gauche.
Bah non, écoutez, déjà parce qu'il y a des députés écologistes qui viennent, donc oui, il y a des députés
pas de la droite,
de formation politique qui viennent. Non, effectivement, c'est pas de la droite, mais on aura des débats qui sont organisés. Maintenant, c'est avant une élection présidentielle, donc il y a Mathieu Pigasse, par exemple, qui vient aussi, qui est pas spécialement
de la France
Insoumise.
Mais un débat entre personnes qui sont d'accord, c'est pas franchement un débat, c'est une conférence avec un soupçon de lobotage, de vous allez faire. Enfin, pour moi, c'est de l'endoctrinement, parce que des conférences.
Non, ceux qui viennent sont ceux qui sont d'accord ou qui viennent.
Mais oui, mais donc du coup, on fait un bourrage de crâne, parce que j'aurais aimé, ce que j'aurais trouvé excellent de votre part, c'est de justement de manière très républicaine et respectueuse, pas pour avoir un spectacle, c'est d'inviter des gens qui vous contredisent et qu'on puisse travailler ensemble. Or, débattre avec des gens qui sont d'accord avec vous.
C'est ce que je fais là ce matin, je débat avec vous alors qu'on ne va pas parler.
Oui, vous ne faites pas ça pour les jeunes. Pour les jeunes, vous leur montrez un débat sans qu'ils sont d'accord.
Et on a par exemple, on a invité des ministres du gouvernement, on a invité encore Mme Barbu hier.
Elle ne viendra pas finalement.
Elle ne viendra pas, mais vous voyez, en tout cas, on l'a invitée, elle est la bienvenue évidemment.
C'était tendu quoi.
Ah bah évidemment, on nous tend une perche, on la prend. Ça, c'est une
parce que Madame Barbu a dit que celui qui parlait le mieux de l'écologie, oui, qui avait les meilleures propositions, c'était Jean-Luc Mélenchon.
Et oui, et pourtant les ministres macronistes, vous voyez. Alors, à quel point on arrive à faire une union très large.
Vous êtes sympathique. J'avais pas le plaisir de vous connaître, Monsieur le député. C'est vrai, vous êtes moderne. Vous êtes attractif, mais vous n'avez pas trouvé de meilleures idées que d'être socialo-communiste ?
Non, effectivement, que d'être républicain-socialiste. Effectivement, j'ai pas trouvé de meilleures idées, mais je vous invite évidemment à venir aux amphis pour pouvoir discuter. Et puis, depuis le public, animer le débat.
Alors, justement, une chose, parce que vous disiez Jean-Luc Mélenchon va.
Ça dépend de vos revenus, mais je vous enverrai la grille de tarifs pour venir. Il y a pas de problème. Vous pouvez venir comme tout le monde.
Moi, j'ai une question.
Attends, je voudrais finir. Jean-Luc Mélenchon prononce son discours dimanche, et dimanche normalement c'est l'annonce de candidature de Raphaël Glucksmann aussi.
Alors c'est ce qu'on a vu passer dans la presse, je ne sais pas à quel point c'est confirmé ou pas. Bon ben écoutez, je suis désolé pour M. Glucksmann si on lui chope la vedette avec le discours de Jean-Luc Mélenchon.
Qu'est-ce que vous en pensez de cette candidature ? Il est de gauche, Raphaël Glucksmann, ou pas ?
Mais je ne sais pas quel est son programme électoral, donc je vous avoue que c'est dur de le classer pour l'instant. Le jour où il y aura un programme électoral, on pourra comparer, regarder un peu qu'est-ce qu'il pense de tel ou tel sujet, qu'est-ce qu'il pense du régime actuel, est-ce qu'il pense que la 5ème République qui concentre tous les pouvoirs, c'est une bonne chose, ou est-ce qu'il faut aller vers une 6ème plus démocratique? Et est-ce qu'il pense que le budget des pompiers, il est adapté, ou est-ce qu'il faut du matériel, de l'équipement, du personnel qui est supérieur? Est-ce qu'il pense qu'il faut organiser le territoire pour gérer la ressource en eau, interdire les pesticides qui sont cancérogènes, etc., etc. Ça, c'est des sujets très concrets, je ne sais pas
ce qu'il en pense. Et est-ce que vous pensez que M. Mélenchon peut faire un discours encore plus long que ceux de Fidel Castro?
Alors, je sais pas, parce que Fidel Castro, il a fait 4h39 à l'ONU à son premier, de mémoire.
C'est pas l'objectif qu'on se donne,
mais effectivement, c'est sûr que si jamais on se contentait juste de lire notre programme électoral, il y en a pour 10-15 heures à voix haute. Rassurez-vous, on fait toujours des synthèses parce que c'est le plus dense.
Mais j'ai encore une question sur l'actualité, après je donne la parole à Zora. Sur le piratage, est-ce que les ministres auraient dû démissionner sur l'affaire du piratage ou pas?
Ils auraient dû agir, en fait. La démission, c'est toujours ce qui arrive lorsqu'on a échoué. En l'occurrence, ce piratage, il pose deux questions. D'abord, le sens que ça a. Donc, pour que tout le monde, je pense, a suivi, parmi celles et ceux qui nous écoutent, il y a eu une vague de piratage. Service des impôts, il y avait Éducation nationale avant, il y avait France Travail auparavant, etc., etc. Ces vagues de piratage, elles posent deux difficultés. Une qui est individuelle, c'est-à-dire que les données des personnes, vous, moi, peuvent être sur le web et donc faire l'objet de lucrativité ou de mise en marché qui peuvent être dangereuses avec des usurpations d'identité y compris, et une difficulté collective qui est la sécurité de nos institutions de souveraineté. On l'a vu par exemple, les ingérences étrangères au moment des élections municipales. Nous à Toulouse, avec François Picpal, on a fait les frais d'ingérences étrangères. Donc la fragilité des systèmes d'information de ce pays est un double problème, national et individuel. Est-ce que le gouvernement a fait ce qu'il fallait? Je ne pense pas. Notamment au budget dernier, la CNIL avait émis un avis disant qu'il aurait fallu qu'on ait à peu près au moins 40 équivalents temps plein dans l'agence de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI. Or, le gouvernement en a fait 5 fois moins comme ajout. C'est typiquement des petites choses qui font que économie budgétaire par économie budgétaire a été coupe budgétaire par coupe budgétaire. On a retiré à tous les niveaux de services publics les défenses numériques dont nous disposions. Et la France n'a jamais été aussi exposée à des menaces soit étrangères, soit de grande criminalité par rapport à ces données. Il faut donc remettre les effectifs qui étaient nécessaires, qui sont consensuels parmi tous les experts. On dit il faut au moins 40 personnes pour surveiller l'ensemble de ces données et de leur protection, et se demander pourquoi, lorsqu'une fuite de données, un vol en l'occurrence, a lieu début juin, on est au courant mi-août. C'est que visiblement, y compris dans la détection des failles, il y a un problème. Peut-être que lorsque le gouvernement a mis 40 milliards d'euros dans la loi de programmation militaire, il aurait dû mettre au moins quelques centimes dans la cybersécurité civile, comme nous le demandions.
Zora Bitton.
Alors, compte tenu de la situation aujourd'hui économique des Français, pouvoir d'achat, sécurité, éducation, culture, etc., on aurait pu imaginer que le programme de la France insoumise pouvait être, pour une grande majorité des Français, une réponse de justice sociale. Éventuellement, ça se débat. Ça, c'est projet contre projet, pourquoi pas. Ça, c'est un projet de société comme un autre. Du point de vue social et économique, il est entendable. Là où vous avez complètement, j'allais dire, si je puis me permettre le terme, bousillé votre programme, et en tout cas la crédibilité d'une France insoumise qui parlerait à tous les Français, c'est quand vous avez trempé dans le palestinisme à outrance. Je m'explique. Le palestinisme, c'est quoi? C'est le 7 octobre, 4 jours après, génocide. 4 jours après, Reuters, AFP, tout est sourçable. Et depuis le 7 octobre, la France insoumise a décidé de faire du palestinisme son projet politique le plus obsessionnel, le plus en avant. Et c'est vrai, c'est vérifiable. Tout le monde a noté, calculé, vérifié combien la France a insoumise. Et du coup, vous avez complètement perdu. En plus, c'était à dessein. Et d'ailleurs, c'est dit par plusieurs intervenants de la France insoumise, draguer un électorat, etc. Donc, les Français ont un sentiment de se dire que finalement, le projet économique et social de la France insoumise de 2012-2017, qui aurait pu être attractif, intéressant, parce qu'il peut être que sur le point de vue de notre pouvoir d'achat, etc., on aurait pu être entendu. Mais en fait, le palestinisme permanent, 20 millions de femmes afghanes invisibilisées. Hier, un discours de Jean-Luc Mélenchon, surréaliste, qui dit « il faut parler avec la Chine » et d'ailleurs « il ne faut pas se préoccuper de ceux qui gouvernent, mais parler avec tout le monde » et d'ailleurs « regarder du point de vue économique et diplomatique ce que nous aurions comme intérêt à discuter avec la Chine ». Ok, d'accord, moi je suis complètement d'accord. Ok, donc on s'en fout de Netanyahou. Alors, Israël, qui est un des pays les plus avancés en technologie, qui vient de sortir une révolution absolument incroyable dans l'histoire de la médecine, c'est-à-dire arriver à éradiquer le cancer du pancréas le plus mortel et qui me concerne.
Donc ils sont aveuglés par leur Palestine, c'est ce que tu dis.
Alors, et moi je dis pourquoi.
Alors Adrien Cloué répond.
C'est quoi le projet quoi?
Le projet, il est simple, c'est la défense du droit international. Je pense que les rapports entre les peuples sont une chose. Il y a aussi des rapports entre des nations qui prennent la forme de rapports entre des gouvernements. Ce sont trois choses qui sont distinctes et qui sont organisées au niveau international, notamment depuis 1945, pour pouvoir organiser l'activité collective. Alors évidemment, le quotidien, le droit international, c'est ce qui permet à des avions de décoller, d'atterrir, pour prendre des choses de base. Okay. Et c'est aussi ce qui permet d'avoir une cour pénale internationale qui acte qu'il y a des actions, qu'il y a des pratiques qui sont mises au banc de l'humanité. En l'occurrence, ce qu'a fait le gouvernement, ce que continue à faire le gouvernement israélien, à savoir un acte de génocide.
Non, il n'est pas encore qualifié juridiquement.
Mais laissez-moi finir.
Quatre jours après,
la Cour internationale de justice, il peut être en désaccord. Vous pouvez être en désaccord.
Non, vous ne pouvez pas mentir. Ça, je ne supporte pas. C'est-à-dire que
la Cour internationale de justice, dans ses réquisitions,
aucun jugement n'est rendu.
C'est une réquisition. C'est une réquisition.
Voilà, c'est exactement ce que je suis en train d'expliquer. Donc n'hésitez pas, mais laissez-moi finir une phrase. Moi, je vous ai écouté jusqu'au bout, alors que je trouvais insupportable votre explication de palestinisme quand on parle de 20 000 gamins sous des débris, d'accord? Donc moi aussi, je peux lever la voix et commencer à m'insurger. Bon, parlons concrètement. Pense-t-on aujourd'hui que Monsieur Netanyahou, c'est-à-dire le gouvernement d'extrême droite à la tête de l'État d'Israël, pratique un génocide? Je pense que oui. Deux, un nettoyage ethnique, notamment côté Cisjordanie, je pense que oui. Trois, des crimes de guerre et contre l'humanité, par exemple au sud Liban, je pense que oui également. Dès lors, si jamais il est concerné par ces trois violations du droit international, eh bien il faut des actions internationales qui sont entreprises contre lui. Et je pense que la France mériterait d'être à la pointe avancée du monde pour le respect de ses droits fondamentaux.
Pourquoi vous êtes dans le palestinisme en obsession?
Mais je n'ai pas dit que vous étiez pro quoi que ce soit. Je vous connais pas. Je sais pas quelles sont vos opinions dessus. Donc et puis par ailleurs, je m'en fiche un petit peu. Moi, je vous dis ce que j'en pense. Moi, vous en pensez ce que vous voulez. Bon, donc, je pense que M. Netanyahou est un criminel de guerre. Est-ce que la France a été à la hauteur? Non, clairement pas. On a laissé M. Netanyahou survoler notre territoire alors qu'il fallait le remettre à la Cour pénale internationale. On continue à livrer des composantes d'armement. Dès lors, le gouvernement français a été complice dans les activités militaires de M. Netanyahou. Donc, il faut agir, il faut avoir des sanctions contre le gouvernement de M. Netanyahou. Et oui, c'est comme ça que marche le droit international.
C'est ce que vous ferez si vous arrivez au pouvoir.
Exactement.
Donc, je voudrais qu'on revienne juste sur ce qui est au cœur de l'été, là. Et notamment la préparation du budget. Parce que ça va être chaud à l'Assemblée nationale. Oui. Dès que la rentrée parlementaire va arriver.
Enfin, ça va être chaud s'ils font n'importe quoi en face.
Alors justement, parce que vous avez vu, au cœur de l'été, on a eu des petites pistes comme ça, et notamment de désindexer les retraités les plus aisés. Alors c'est une piste de travail à partir de 3000 euros. C'est acceptable pour vous ou pas?
Non.
C'est votable pour vous ou pas?
Non, ce n'est pas acceptable, parce qu'il s'agit d'abord d'une manière
3000 euros brut, hein.
Oui. Très étonnante de couper la population sur leur statut d'activité. Pourquoi est-ce que des retraités devraient particulièrement contribuer? Faire contribuer des gens, on pourrait estimer dans ce pays que les gens qui ont un très gros patrimoine pourraient contribuer un peu plus. C'est pas ce qui est fait. C'est les retraités uniquement, c'est-à-dire que quelqu'un de très riche qui aurait 40 ans contribuerait pas. Et puis, deuxièmement, à partir de 3000 euros bruts, moi je ne suis pas convaincu que 3000 euros bruts, on appartienne à la grande aristocratie financière dans ce pays et qu'on ait été les grands bénéficiaires depuis 2017 des politiques de M. Macron. Car, depuis 2017, M. Macron a redistribué chaque année à peu près 50 milliards de cadeaux fiscaux aux quelques ménages les plus aisés du pays. Ce ne sont pas celles et ceux qui seraient amenés à payer là. C'est beaucoup plus qui sont concernés. Et puis, on connaît bien l'objectif derrière. Si ils nous disent, il faut équilibrer la caisse d'assurance vieillesse, parce que c'est un des arguments, ils disent, on veut équilibrer. Dans ce cas-là, posons le débat politique. Où peut-on trouver 6 milliards d'euros pour équilibrer la caisse? Moi, je pense qu'il y a d'autres propositions qui peuvent être mises sur la table, qu'il faut les discuter. J'en fais une ici. Si jamais on faisait contribuer les revenus de levée-vente d'actions, les revenus d'intéressement et de participation, au même titre que les salaires ordinaires aux caisses d'assurance vieillesse, c'est-à-dire en fait on fait cotiser tous les revenus du travail à égalité, on lève 10 milliards d'euros. Donc le sujet, il est mis de côté immédiatement. On peut avoir d'autres options. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais discutons des options financières réelles plutôt que de vouloir absolument taper sur la tête des retraités. Oui, car l'objectif derrière, en réalité, c'est de désindexer les retraités soi-disant aisés, qui prennent des assurances privées. En réalité, on voit très bien l'objectif derrière, c'est d'ouvrir un marché de l'assurance privée en poussant des gens qui auraient les moyens un tout petit peu de cotiser de leur côté et de se détourner des caisses d'assurance vieillesse.
Est-ce que le gouvernement Le Cornu va tenir cette législature ou pas?
J'espère que non. Je trouve que chaque jour qui passe, un jour de trop. Mais ça, c'est le cas depuis leur nomination.
Moi, j'ai une question
Emmanuel, vas-y.
Oui. Non, l'escroquerie de votre parti. Très brièvement, c'est de faire croire aux Français.
C'est dit amicalement. Hein.
Non, mais, oui, ben, non, je vois bien.
Non, mais vous êtes un type sympa. Et,
qu'est-ce que ce serait si c'était pas amical?
Vous êtes de commerce agréable. Tout à l'heure, je vous demanderai quand même de nous préciser ce que c'est que votre pins, la révolutionnaire. Oui. Parce que vous avez tous ça.
Le 1er mai en France, depuis 1889, le mouvement ouvrier arbore un triangle rouge. À l'époque, c'était du cuir qui était cousu sur les vêtements.
C'est vraiment nécessaire.
C'est un symbole.
Le 1er mai, c'est nécessaire. L'escroquerie de votre parti, qui est un parti escroc, c'est de faire croire aux Français crédule qu'en prenant plus aux riches, on va pouvoir non seulement redistribuer, mais faire vivre l'État normalement, alors qu'il y a une impasse financière. Vous êtes un type instruit, diplômé, vous le savez parfaitement. Il y a une impasse financière qui fait que votre programme n'est pas viable et que c'est du saupoudrage de prendre encore plus aux riches qui, de toute façon, partiront à l'étranger parce qu'ils sont pas plus cons que la moyenne, voire moins cons. Et,
Il n'y a pas de raison que les riches soient moins cons que la moyenne, par ailleurs, ils sont comme tout le monde.
Vous trompez les gens parce que, en fait, l'échelle, elle est de 1 à 50. Vous pouvez prendre un plus aux riches, mais votre trou, il est de 50. Donc, c'est la faillite. Moi, je veux pas d'une république sud-américaine communiste en faillite, même avec des types sympathiques comme vous, monsieur Cloué.
Mais promis, vous n'êtes pas obligé de parler espagnol. Bon, maintenant, parlons.
C'est la faillite assurée de la France avec vous.
Au-delà des grandes expressions. Non, mais je prends un cas parce que vous avez fait un ensemble de cas. Mais vous dites, les riches partiront à l'étranger. Bon, d'abord, je pense que c'est pas leur faire.
Et les fonds riches, les petits riches, tous.
Quand vous dites les riches partent à l'étranger, je pense que c'est pas très respectueux d'imaginer que ces gens ne vivent que par leur portefeuille, beaucoup en attachement à la France parce que les gamins sont à l'école, parce qu'ils vivent ici, etc. Mais même s'il y en avait qui partent à l'étranger, vous savez
qu'il
y a des pays
avec vos impôts confiscatoires.
Je finis. Vous savez qu'il y a des pays comme les USA où je rappelle que les USA on était monté à 91% de tranches d'imposition sur les plus riches, hein, 91% maximum aux USA. Comment ils faisaient ça? Eh bien, tout simplement, ils avaient créé le système de l'impôt universel, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un de très aisé partait à l'étranger, eh bien, s'il payait moins d'impôts dans le pays où il était que son pays d'origine, il versait la différence. Ah, mais c'est pas applicable, mais pourtant ils le font encore. C'est marrant, ça. C'est pas applicable. Les contribuables nord-américains vont encore le faire et vont verser ce différentiel. Donc, bien sûr qu'on peut le faire et bien sûr que c'est la base avec laquelle il faut créer des coopérations. Dans le cadre de l'OCDE,
les gens prendront les nationalités étrangères, c'est pas applicable.
Alors, vous savez que ça dure un peu de temps, la nationalité, pour la prendre. Donc, ça nous laisse déjà 5-6 ans pour faire le différentiel. Rassurez-vous, la caisse sera bien remplie.
20 000 foyers fiscaux sont partis depuis 1980 avec vos ancêtres socialo-communistes. Tous ces gens-là, ils sont déjà dans des pays depuis longtemps. Ils ont déjà plus ou moins la double nationalité. Pardon. L'accès à une autre nationalité.
Combien de gens sont revenus?
Les vraies fortunes, grandes fortunes.
Je vous retourne une question. Combien de gens sont revenus? Combien de ménages fortunés sont revenus quand vous avez supprimé l'ISF?
Ben, ils reviennent pas parce que vous leur faites peur.
Alors, donc ça veut dire que vous faites des cadeaux aux riches, ils ne reviennent pas et vous dites, mais ils ne reviennent pas parce que vous pourriez parler.
Toutes les personnes de la France insoumise ne sont pas aussi sympathiques que vous, monsieur Cloué.
Mais personne n'y croit à vos histoires. À chaque fois que vous faites un cadeau aux riches, il n'y en a pas un seul qui revient et dès qu'on leur fait payer des impôts, vous dites, attention, ils vont partir.
Il n'y a pas eu de cadeau aux riches, vous racontez n'importe quoi.
La fin de l'ISF,
c'est des allègements d'impôts. Vous pouvez pas parler de cadeau.
Un impôt sur la fortune supprimée, c'est pas un cadeau.
Mais l'IFI a été maintenu, vous savez très bien que le rendement est très proche.
Alors, combien rapporterait
l'ISF sur la fortune?
Vous seriez riche, monsieur Cloué, vous seriez le premier à partir, ne dites pas n'importe
quoi.
Vous mentez.
Non, parce que moi, j'aime mon pays et j'aime financer des écoles, des hôpitaux.
Avec des impôts confiscatoires, vous resteriez.
Oui, bah, vous savez qu'on a la chance d'être millionnaire, on dit merci à son pays au lieu de se barrer. Mais, vous savez combien rapporterait l'ISF aujourd'hui, s'il existait encore à la place de l'IFI?
Mais très peu.
5 milliards d'euros.
Très peu, c'est rien.
C'est rien, 5 milliards d'euros.
Pour foutre en l'air toute l'économie française, des gens qui n'investissent plus. Attendez. Ce sont les gens qui tirent la France. 20 000 foyers fiscaux sont partis.
5 milliards d'euros, vous dites que c'est rien. Pourtant, c'est ce que vous voulez récupérer en désindexant les retraités. Donc là, il y a un choix qui est très clair. Est-ce que vous voulez faire payer des gens qui ont un très gros patrimoine ou pour la même somme, désindexer la moitié des retraités de ce pays?
Moi, j'ai fait mon choix. Je me tais après, mais ce qui est terrible, monsieur Clouet, au-delà de votre sympathie, encore une fois, en tant qu'homme, vous êtes un de commerce agréable, mais c'est que vous n'accéderez pas au pouvoir, mais rien qu'avec les idées folles que vous brandissez, les riches, ils partent déjà, vous approvisionnez notre pays, rien que par votre existence politique.
Rendez-vous au mois d'avril déjà, puisque, enfin au mois de mai, puisque ce sera le premier tour de l'élection présidentielle, puis rendez-vous dimanche pour le discours de Jean-Luc Mélenchon, que l'on écoutera bien sûr. Merci Adrien Clouet d'être venu vous confronter au GG, merci beaucoup, et bon séjour là dans la Drôme pour ces amphis. Dans un instant, la promulgation de la loi sur la fin de vie, un vrai progrès pour notre pays. Vous venez en discuter avec nous au 32-16, il est 11h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules. 1, 2, 3,
4. Si vous voulez prendre la parole, c'est le 32-16 qui est à votre disposition. Vous connaissez le... Alors, c'est légal, hein. De passer par le 32-16 et de vous
de faire une intrusion.
De faire une intrusion avec les GG, avec les
grandes gueules. Imagine un jour, on reçoit un coup de fil d'un hacker avec les voix, les Animus.
Si les Zero Bytes écoutent les GG, moi
je veux bien
vous. Antenne ouverte, là on a encore 25 minutes ensemble. Vous pouvez nous
appeler. Moi j'ai des questions à vous poser.
Comment
vous faites? T'as vu ça? On va se retrouver tous en garde à vue là.
Pour terminer, je voudrais qu'on redise un mot sur la promulgation de la loi qui crée le droit à l'aide à mourir. Est-ce que c'est une véritable avancée pour notre société? Est-ce que c'est une bonne loi? 80% des Français, souvenez-vous, depuis l'affaire Marie Imbert, hein, qui a quasiment 20 ans maintenant déjà, 80% des Français étaient mourir, qui est quelqu'un qui a fait ses dernières volontés et qui dit je ne veux plus souffrir. Ça a été un vrai combat de société. Il y a une convention citoyenne là-dessus aussi. Alors de quoi s'agit-il? Puisque ça a été promulgué par le président de la République, la personne pourra s'administrer un produit létal en présence d'un soignant. Bon, si et seulement si le patient ne peut accomplir physiquement le geste, ben le soignant pourra aussi s'en charger. Il faut être majeur, il faut être français, il faut être résident de longue date, il faut avoir une affection grave et incurable, il faut être en phase terminale ou avancée, il faut souffrir de manière insupportable et surtout, il faut être capable d'exprimer son choix éclairé jusqu'au dernier moment. La procédure est alors menée par un médecin qui peut lui-même solliciter d'autres acteurs. Bref, on s'entoure de toutes les précautions. L'aide à mourir programmée, promulguée, est-ce que c'est une bonne loi, oui ou non? Qu'est-ce que vous en dites, Laura?
Moi, je trouve qu'elle arrive trop tôt, dans le sens où il y avait exactement le même principe de texte qui avait été voté sur les soins palliatifs. Le travail n'a pas été fait, il n'est fait qu'en partie. Et on se rend compte de quoi? Que quand les soins palliatifs sont apportés aux patients, les patients ne réclament drastiquement moins, justement, le droit de partir plus tôt. Effectivement, c'est un débat qui doit avoir lieu. Je pense que chacun dans notre entourage... Oui, sauf qu'il arrive trop tôt.
La loi
C'est-à-dire que pour moi, ce texte-là, malheureusement, n'arrive pas pour le bien-être des patients. Il arrive en premier lieu pour pallier à un échec sanitaire.
Les soins palliatifs.
Exactement. Moi, je serais d'avis que, effectivement, on a tous été confrontés à ça, mais quand on voit le pourcentage de gens qui ne veulent plus partir une fois qu'ils ont des soins corrects et qu'ils ne souffrent plus, on est en droit de se poser la question, est-ce qu'effectivement on n'est pas en train de pallier à un échec sanitaire? Pour moi, oui.
Zora.
Alors, j'ai pas vraiment suivi les débats parce que pour moi, l'aide à mourir, c'est un truc anxiogène. Mais j'ai quand même regardé. Alors, au tout début, j'étais, un petit peu sceptique. Et puis, j'ai évolué dans ma façon de voir les choses et je me suis dit, voilà, il faut laisser la liberté aux gens de décider de la façon dont ils veulent vivre face à la maladie, au handicap et à des choses qu'ils savent inéluctables. Et ça, c'est important. Individuellement, on ne peut pas être dans la peau de quelqu'un qui souffre énormément, qui n'a plus de vie sociale, qui est totalement retiré de la société et qu'on voudrait garder en vie, en fait, pour les autres, mais pas pour lui. Donc, en ça, je trouve que l'aide à mourir est une façon de donner de la liberté à ceux qui décident de partir.
Et de la dignité.
Donc, je trouve que c'est c'est un progrès important et il a été confronté à des croyances et à des pratiques religieuses que nous avons les uns et les autres pour certains. Et ça s'est heurté. On se suicide pas, on décide pas de la mort de quelqu'un. Et même moi-même, j'ai été confrontée à ce questionnement en me disant, mais en fait, dans la religion, c'est ce genre de pratique, on le fait pas. Et puis, dans une société moderne où on peut se dire que, voilà, voir des gens comme ça. Ma mère avait toujours un mot lorsqu'elle était âgée. Elle disait, mais quand on est vieux, on n'est ni mort ni vivant. Et je me dis qu'à un moment donné, est-ce que quelqu'un peut décider lui-même de dire, voilà, en fait, socialement, je suis mort, physiquement, je suis quasi mort, je n'ai aucune activité normale, et donc je décide de partir.
Et je suis malade.
Et donc je suis malade, oui, déjà.
Oui, c'est justement ce que prévoit la loi. Tu
oui, c'est bien.
C'est bien, c'est une bonne chose.
Non, mais je suis pour. Je suis pour.
À partir du moment où tu rentres dans ce cadre de grave, incurable, phase terminale, avancée.
J'ai été au départ sceptique et que j'ai évolué.
Avant de donner la parole à Emmanuel, je voudrais qu'on écoute Stéphane. Il a un exemple à nous donner, un exemple personnel. Il nous appelle de Meurthe-et-Moselle. Il est brancardier. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour les élus.
C'est une bonne chose cette loi ?
Ah bah c'est très bien. C'est certainement la seule chose positive que je vais retenir des deux quinquennats du président.
Mmh. Pourquoi ?
Moi j'ai mon père qui est décédé en 2020. Il était atteint d'une maladie incurable, une chorée de Huntington, donc voilà, un peu compliqué. Il s'est retrouvé placé à 60 ans en maison de retraite, ce qui était très difficile. Et le Covid l'a totalement achevé, quoi. Il s'est dégradé. Ouais. Donc on a cherché des solutions du côté de la Suisse, à savoir que c'est très cher.
Parce qu'il voulait en finir, c'est ça ?
Ah oui, il a toujours exprimé, depuis même avant d'avoir les symptômes. Du moment où il était diagnostiqué, il a dit que voilà, les choses étaient claires, il ne souffrirait pas, quoi.
D'accord.
Et la Suisse, comme dit, très cher, le Luxembourg, très long. Et la solution a été trouvée du côté de la Belgique, où ça a été réglé en un mois.
D'accord. C'est-à-dire que s'est-il passé précisément ?
Il est parti là-bas en consultation. Le diagnostic était clair, maladie incurable, envie d'en finir. Et voilà. Donc,
du coup, votre papa, il ne serait pas rentré dans les conditions, puisqu'il n'était pas en phase terminale.
Non. Mais je veux dire, la chorée de Huntington, je ne vais pas entrer dans les détails, mais
il aurait fallu attendre que la maladie. Bien sûr, il aurait fallu attendre que la maladie se développe et qu'elle le paralyse complètement, quoi, en fait.
C'est exactement ça.
C'est horrible. Ouais.
Et puis, il aura enregistré ses directives, et puis peut-être qu'à ce moment-là, vous auriez pu. Dans le cadre de la loi, vous l'auriez accompagné à ce moment-là. Mais il voulait le faire avant, avant de se sentir diminué, quoi, en fait.
C'est pour ça que je trouve que, justement.
Elle ne va pas assez loin.
Elle ne va pas assez loin, et que c'est pour ça que moi, je la mets en parallèle avec le manque de soins palliatifs. Elle est là pour régler le problème, on n'a pas assez de soins palliatifs. Ou alors, justement, quelqu'un.
Allez-y, Stéphane.
Laura m'a fait bondir un peu, parce que les soins palliatifs, ok. Moi, je travaille en milieu hospitalier, hein. Les soins palliatifs, c'est bien beau, mais dans des maladies comme ça, il n'y a pas de solution.
Non.
C'est pour ça que je dis que justement, moi, je serais même pour que ce soit la personne est libre
Stéphane,
de faire ce qu'elle veut à partir du moment où elle est malade.
Reste avec nous, Stéphane, parce qu'on va écouter Emmanuel, et vous avez l'exemple personnel de votre père. Et puis, sûr, on aura Marie, qui est infirmière, et qui veut parler des soins palliatifs, justement, Emmanuel. Ouais.
Bon, c'est un sujet éminemment délicat. Zora l'a exprimé à sa manière. Il y a le problème de la loi actuelle qui vient d'entrer en vigueur, mais il y a surtout les conséquences de cette loi et la porte ouverte de cette loi, parce qu'en fait très rapidement on va changer les conditions vont s'aménager d'elles-mêmes, où on va biaiser et puis ensuite le législateur reviendra à la charge.
Comment tu vas
et on aura des abus.
Où est-ce que serait le biais?
On aura des abus terribles, parce que il y a la possibilité donc maintenant d'une forme d'euthanasie, et avec les enjeux d'héritage ou tout autre motif, avec tous les gens qui tournent autour des personnes malades, il risque d'y avoir de très très gros abus. Il va y avoir aussi la culpabilisation des personnes âgées ou malades, avec la possibilité donc de cette euthanasie déguisée qui change complètement l'ambiance. Et pour le malade et en lien avec son environnement. J'ai eu un père qui a été hémiplégique pendant 13 ans, de 1987 à 2000. Évidemment que dans ce contexte-là, alors, notre famille, nous n'aurions pas adopté de, de position pour une euthanasie quelconque. Et mais nous l'aurions encouragé si lui avait songé à cette disposition, à éviter évidemment. Mais dans des familles disloquées, dans des familles en conflit, c'est extrêmement grave. Moi, je dirais que c'est énorme ce qui vient de se passer et que le président Macron, en imposant cette loi, car il en a fait un cheval de bataille personnel, on se demande vraiment pourquoi, parce que pour ajouter une pierre à l'édifice sociétal, que sais-je, a quand même rendu inexcusable son magistère pendant ces deux quinquennats, car cette loi va rester et toutes les dérives qui vont survenir extrêmement graves pour liquider des personnes, eh bien, ils en auront la paternité, tous ceux qui ont mis en place cette loi.
Marie veut en discuter avec les grandes gueules, elle est dans la Creuse. Bonjour Marie, infirmière aussi. Bonjour, bienvenue.
Bonjour Marie.
Bonjour.
Est-ce que c'est une bonne loi ou pas alors ?
Alors, si on prend de mon point de vue personnel, oui. Si on prend mon point de vue de soignant, oui et non. Dans le sens où on a déjà du mal à accompagner les gens dignement via les soins palliatifs parce qu'il y a un gros manque, que ce soit au niveau des lits, au niveau des structures. Mmh. Les unités de soins mobiles gériatriques font ce qu'elles peuvent. Comment on va mettre ça en place ? Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense qu'il fallait déjà avancer un peu plus sur tout ce qui est soins palliatifs.
Oui, parce qu'il y a 20% des hôpitaux, je crois, qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs.
C'est énorme. C'est énorme. Ouais. Donc, vous voyez ce que je veux dire dans le cas de la Corée, parce que moi je vais sur des établissements spécialisés, dont certains qui sont précurseurs dedans, de Huntington. En effet, c'est une très bonne chose si on peut parler ainsi ce qui s'est passé pour le monsieur et donc son papa. Je comprends aisément. Voilà. Pour avoir trois cas de décès de la Corée il y a à peine 15 jours, en à peine une semaine, c'est voilà, et des jeunes. Mais je pense qu'on se voile un petit peu la face. Je ne sais pas si vous voyez où j'en viens.
Oui, je comprends. C'est-à-dire qu'on s'abrite derrière une avancée sociétale pour masquer un échec aujourd'hui dans Exactement. Les moyens que l'on met à l'hôpital et notamment pour les soins palliatifs. C'est ça, c'est ce que vous dites, Marie.
20% qu'il n'y en a pas, ça ne veut ça. Pas dire que oui, ceux mais qui l'ont, ils
regardez,
sont formants.
Bien sûr, mais avec les soins palliatifs, je suis d'accord qu'il faut les développer, hein, surtout... aujourd'hui, avec une population qui va vieillir, vieillir, je l'espère le plus souvent à domicile, avec les progrès de la médecine, mais il arrivera toujours un moment où il faudra l'hôpital, une prise en charge et puis un accompagnement. Seulement, ce qui se passait avec les soins palliatifs, c'est que souvent on vous appelait au dernier moment. Vous voyez, c'est-à-dire la personne, elle était en soins palliatifs. En fin de vie, vous veniez, on vous disait, bah il y en a peut-être encore pour quelques heures, et puis en fait vous n'aviez pas la maîtrise du soin. Et je comprends, parce que le soin, c'est le médecin. Sauf que là, cette loi, ce qu'elle permet avec la personne, tant qu'elle a sa conscience, c'est vous faites ça en accompagnement, vous comprenez ?
Mais dans ce cas-là, tu obliges le patient. Enfin, non. Dans la loi, tu mets en sorte que le patient ait dû avoir du soin palliatif, ce qui aurait permis que ce ne
non,
soit
mais
pas
tu
un
peux,
voile
tu,
caché
tu,
pour
tu
éliminer encore le soin
palliatif. Tu peux en parler avant, et la personne peut te dire, voilà, écoute, voilà ce qu'on va faire, puisque maintenant la loi me le permet, finalement, je décide, avant d'aller en soin palliatif, en fait, au moment où je vais de partir, vous en parlez, parce qu'avant c'était un peu au bon vouloir du médecin, vous comprenez, qui montait aussi la dose et qui faisait partir le patient sans que vous le saviez, sans que vous le sachiez, quoi. Vous comprenez, Marie, ce que je veux dire ?
Ce qui est intéressant, ce qu'il faudrait regarder de près, c'est la rigueur de l'encadrement d'une telle initiative pour lui éviter ces débordements. En fait, c'est ça.
Mais ils n'ont pas le temps, les médecins, ça va être catastrophique.
Regardez, le soin palliatif se porte pas bien du tout. Oui. Et moi, j'ai le sentiment que, en fait, c'est comme quand on rénove une maison. Il y a ceux qui décident de la rénover vraiment, et il y a ceux qui font une rénovation en camouflant. Ah, là, et ça, en fait, j'ai l'impression qu'on fait à chaque fois ça. Et donc, je suis pour... Moi, honnêtement, je trouve qu'on doit laisser la liberté à quelqu'un de dire « je suis condamné ».
Là, ça le permet.
D'accord,
voilà.
Ok.
Mais vous savez, si je peux me permettre...
Allez-y, Marie.
Si je peux me permettre, vous avez aussi ce qu'on appelle les directives anticipées.
Oui, complètement.
Donc moi, par exemple, si vous voulez, je vais vous donner mon exemple personnel, j'ai eu un cancer. Voilà. J'ai fait mes directives anticipées. Bon. Avec tout un protocole, ce que je voulais, ce que je ne voulais pas. Bon. Rien n'empêche de faire les directives anticipées et de dire voilà, moi je suis plutôt soins palliatifs ou je veux bénéficier, vous voyez ce que je veux dire?
Oui, complètement. Mais
voilà. C'est pareil, il faut mettre des garde-fous parce que une
mais
personne
la loi
peut-être ils sont, mais ils vont sauter les uns après les
mais
autres.
Mais non, ils vont pas
et
sauter.
Demain on pourra liquider parce que tu crois on pourra liquider quelqu'un sans motif.
Bah parce que tu crois que sur les histoires d'héritage, on attend cette loi pour liquider quelqu'un sans motif.
Ah oui, parce qu'on peut pas, on peut pas.
Mais non, enfin les histoires d'héritage, même du vivant de la personne, ça crée des problèmes, ça crée des mœurs, ça crée tout ce que tu veux.
Un héritage n'est
mais que la personne
qu'à la mort du
mais non puisque oui mais la personne concernée elle-même pourra dire voilà ma maladie a avancé, je suis pas encore en phase terminale mais je suis en stade avancé et je veux faire ça maintenant.
Si tu veux,
et c'est elle qui décidera plutôt qu'à la limite ça arrive en phase avancée que tu as un cousin qui arrive au dernier moment et qui dise à la personne concernée oui, écoutez, montez-lui la morphine
c'est plein de bons
et puis
sentiments.
On en termine
non,
c'est plein de bons sentiments mais l'évolution fera que les garde-fous vont sauter comme des pop-corn les uns après les autres.
Non mais tu fais comme la carte de don d'organe. Moi dans mon portefeuille, tu regardes, j'ai ma carte de donneur d'organe. Bah, tu fais pareil, une carte, qu'est-ce que vous voulez? Si dans le cas.
C'est
où
les
vous
directives
êtes
anticipées. Voilà, ouais. Mais il faudrait que tu aies raison, il faudrait que ce soit sur la carte vitale.
Par exemple. Et comme ça, il n'y a pas de dérive. Tu es déjà éclairé. Est-ce que dans le principe, tu préfères, avec la possibilité, une fois que tu es en soins palliatifs, évidemment, de changer, de dire, bon, maintenant, je suis trop fatigué, je veux partir. Mais, de base, qu'est-ce que tu veux? Qu'on te maintienne ou soins palliatifs?
Stéphane et Marie, je vous remercie d'avoir été avec nous. Non, mais tu vois, je trouve que ça serait une bonne initiative,
Alain,
ça, aujourd'hui, de mettre sur la carte vitale, de qu'on mette sur ta carte vitale, précisément, ce que tu veux. On peut tous avoir un accident en sortant du studio. Voilà. Pas d'acharnement. Alors, les dons d'organes, aujourd'hui, il faut mettre ton opposition.
Mais c'est les hackers qui débarquent et qui disent, on a toutes les cartes vitales de donneurs d'organes. Allez! Dès qu'il n'a pas,
on va pas faire découper!
Les produits létals ou létaux seront dans les pharmacies des établissements. Qui empêchera de les utiliser demain à moyen terme? Personne.
Est-ce que c'est une bonne loi, l'aide à mourir qui a été promulguée? Ça a été un débat là. Merci au 32-16 d'avoir. 60% de 60-40,
c'est pas mal.
Divisé 60% de oui. Allez, pour terminer, dans un instant, je vous propose qu'on aille au supermarché. C'est-à-dire que la sécheresse, la canicule, le manque d'eau fait que les légumes et les fruits vont être moches là. Du coup, que font les grandes surfaces?
Et les prix qui sont moches surtout.
On va les acheter aux producteurs, mais ça sera un peu plus cher, mais au moins ils pourront continuer de gagner leur vie. Alors acheter des légumes moches ou des fruits un peu plus chers, est-ce que c'est une bonne chose? Mais est-ce que vous le ferez? Est-ce que le consommateur le fera?
C'est de la deuxième main.
32-16 pour en parler avec les grandes gueules, il est midi moins 20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Restez avec nous, 32-16, pour discuter, pour débattre, comme tous les jours, avec les juges, avec les grandes gueules. Et si vous avez raté les grandes gueules, vous avez les podcasts à votre disposition. Le podcast, c'est la session de rattrapage. C'est sur l'appli RMC ou sur notre site internet rmc.fr. Là, pour terminer, on va parler des fruits et des légumes et de la manière dont les agriculteurs vont essayer quand même de vendre leurs produits, leur récolte, même si elle est moche, même si elle est moins belle.
Des pommes, des poires, des scooby-dooby-doo.
Sacha Distel. Quand je parle pour les à peine plus de 20 ans. Hein. Mais pourquoi les fruits et les légumes vont coûter plus cher et être plus moches? C'est à cause de l'été. Sauf que Carrefour et les coopératives U, les Super U, ont dit. On veut quand même aider les agriculteurs. Les légumes n'ont pas poussé comme il fallait. Ils ne se sont pas épanouis comme il fallait. Donc, on va quand même les acheter. On va les mettre en rayon. Ils vont certes coûter un peu plus cher, mais ça va leur permettre quand même de gagner leur vie. Plutôt que de dire, je fous à la poubelle. De toute façon, personne n'en veut. Mais est-ce que le client, lui, il est prêt? Il est prêt à acheter des fruits et des légumes un petit peu plus moches et un petit peu plus chers, sachant qu'aujourd'hui, tu vois, derrière moi, là, si vous êtes sur RMC Story, on veut avoir les bananes, les pommes, les poivrons, les carottes. Tu sais, tout est calibré, tout est beau.
C'est ça qui est aberrant.
Oui, bien sûr.
Mais c'est ça qui est aberrant. Enfin,
on a changé d'époque, en fait.
Attends, Laura, vas-y.
Moi, je me souviens, nous, on n'avait vraiment pas beaucoup de sous quand j'étais petite. Et ma mère avait trouvé une activité géniale qui coûtait pas un rond et qui permettait même de faire des économies.
Les fins de marché.
La cueillette.
Ah oui, les cueillettes. T'étais où?
Ah, j'étais fin fond de la Seine-et-Marne.
Oui, voilà.
Je suis à Taverny, il y en a à côté, j'ai déjà emmené ma fille.
Oui, mais tout le monde n'habite pas à la campagne.
Et t'avais. Oui, mais c'est dans le sens où un légume moche. tu t'en fous. Tant que le produit il est bon, je vois pas où est le problème. Enfin, pour faire une soupe, je vois pas où est le problème. Hormis pour faire un joli panier de fruits, que ton fruit il soit beau, moche. On est parti dans de l'aberration. Quand tu vois maintenant qu'il y a des gens qui mettent sous plastique les tomates, quand on met sous plastique une banane, mais attends, mais on va où? Tout est dingue maintenant. On enlève, ils vendent quand même des fruits sous plastique parce qu'on les a épluchés. Mais si tu les épluches pas, pas besoin de les mettre sous plastique. Enfin, c'est le monde dans lequel on vit qui est devenu fou. Donc évidemment qu'on doit acheter, mais on ne doit pas les acheter aujourd'hui parce qu'il y a eu la sécheresse.
On doit les acheter même s'ils sont moches, parce qu'ils sont bons et qu'ils sont de saison.
Mais c'est aberrant de jeter des quantités astronomiques de nourriture parce que c'est moche.
On a Erwan qui est avec nous, qui est employé de fruits et légumes, qui est dans la Sarthe. Bonjour Erwan.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez vu ce qui va se passer Super U à Carrefour? Est-ce que vous pensez que les gens vont les acheter quand même s'ils sont moches, les fruits et légumes?
Bien sûr que non.
Bien sûr que
non, parce que dès qu'une carotte est trop petite, ah bah la carotte est petite, la fan du radis, ah bah la fan elle est abîmée. Oui, mais les radis sont bons. Non, la fan elle est abîmée. Faut jeter à chaque fois. La banane, parce qu'elle est tigrée, bah ils en veulent pas. Ils veulent de la banane verte, de la banane comme il faut. Les tomates c'est pareil. Ah bah trop grosse, trop petite.
C'est exactement ça.
Hyper exigeant.
Donc là, ça veut dire que vous allez les garder sur les bras, quoi, en fait, c'est ça?
Certains vont réussir à nous en prendre, sinon le reste, en général, on est obligé de les mettre aux associations, oui.
Merci Erwan d'avoir été avec nous, Zora.
Moi, j'ai connu le marché de Rungis, où on habitait tout près, et où c'était l'époque où quand un fruit était pas beau, bah en fait comment on appelle ça, c'était les, bon, enfin, je vais appeler ça des marchands,
les
en tout
grossistes.
Cas les grossistes au marché de Rungis, ils donnaient aux nécessiteux des cajots entiers de pommes, de bananes, etc. Bref, donc moi j'ai toujours connu les fruits un peu abîmés, et comme dit Laura, ça faisait partie de notre culture. Une pomme est bonne, on enlève un petit peu le marron, une banane tigrée, marron, et point barre.
Voilà, hein.
Ce qui est incroyable, c'est la façon dont les choses évoluent. À l'époque, le fruit moche, on le mangeait, on se posait pas de questions. Ensuite, le marché de l'occasion, c'était le marché des nécessiteux. On allait au Secours populaire, au Secours catholique pour s'habiller. C'est devenu Vinted, le deuxième main. Les encombrants, c'était aussi pour les nécessiteux. Tout le monde s'y arrête. Le camping, c'était fait pour les classes populaires. Maintenant, c'est tellement la classe que c'est 1500 balles pour aller en Vendée pour un camping. Bref, en fait, on a emprunté tout ce qui était permettait aux classes populaires de vivre à peu près dignement en ayant accès à des choses que les gens aisés pouvaient pas avoir, et on les a remarquettés, comme là aujourd'hui on remarquette un produit moche, genre c'est bien. On met un petit peu plus cher.
On le fait plus cher, mais plus cher parce que l'agriculteur, non, c'est pour lui permettre de gagner sa vie.
Nous, les Français, on n'est pas les pigeons responsables de toutes les catastrophes naturelles qu'il y a dans ce pays. Les gens payent assez d'impôts pour que l'État anticipe et permette d'avoir des airbags à nos agriculteurs. Donc, à chaque fois qu'il y a une catastrophe, on nous dit cagnotte, impôts. En fait, nous, non. Mais non, c'est à toi de te débrouiller avec les agriculteurs. Tu prends assez de pognon aux gens qui en ont pour pouvoir faire les airbags. Donc, le truc des produits moches, c'est que les gens, on les a pas butés pendant 30 ans. Les jeunes, là, tu leur dis un produit moche. Moi, mes petites filles, dès qu'il y a une pomme abîmée, elles disent non, je mange pas. Non, mais enfin. Et donc, aujourd'hui, on va leur expliquer. Et donc, pour permettre aux gens d'accepter des formes de marketing qui coûtent plus cher, la mode, par exemple, deuxième main, moi, j'ai connu une époque, enfin, depuis petite, c'était comme alors. Ça. Et ben là, les gens te disaient, oh non, mais moi, je mets pas de l'occasion, hein. Mais là, l'occasion, il s'appelle deuxième main. C'est un peu plus la classe.
Emmanuel.
Oui, moi, je rejoins notre auditeur. Malheureusement, il y aura une réticence en dehors de personnes un peu altruistes et ouvertes et informées. Une séquence comme celle-ci, les gens vont trouver que les fruits ou les légumes sont moins attractifs, et comme ils seront pas bradés, au moins au départ.
Bah sinon, tu fais un coup de marketing, tu mets à côté pour nos agriculteurs, pour aider nos agriculteurs victimes de la sécheresse.
Bah oui.
Oui, c'est tu vois, à côté du rayon, tu peux mettre, ces fruits viennent de tel endroit, cause de la sécheresse.
Si vous avez envie de donner un peu plus. Allez-y.
Soutenez les agriculteurs, faut le marketer, ça, parce que sinon, t'as raison.
Après, l'autre aspect, c'est classiquement la part des produits qui viennent de l'étranger. Beaucoup d'Espagne, évidemment.
Oui.
Mais moi, je suis épaté qu'on puisse avoir une offre partout dans les hypermarchés, sur les marchés, aussi importante. Qui pleuvent, qui
vendent,
etc.
Oui.
On a toujours une offre.
Et d'ailleurs, il faut faire.
Attends, j'ai Clément qui est avec nous, Clément qui nous appelle de la Vienne. Bonjour Clément, bienvenue.
Oui, bonjour.
Est-ce que vous pensez que les Français vont les acheter, ces légumes et ces fruits moches, dans les supermarchés ou pas?
Bah, moi, je pense que ceux qui les achètent pas, c'est ceux qui n'ont pas de problème.
Pas de problème d'argent, c'est ça.
parce que, enfin bon, je suis pas si vieux que ça. On m'a toujours appris à manger les légumes. Le but, c'est qu'ils remplissent le ventre, qu'ils soient beaux ou moches. Ceux qui se posent la question de « je les achète pas parce qu'ils sont beaux », bah, c'est ceux qui n'ont pas de problème.
Vous, vous avez vu comment c'est calibré aujourd'hui dans les supermarchés? Vous avez vu ça?
Oui, bah après, pour ceux qui vivent à la campagne, qui ont déjà ramassé les melons, les tomates, tout ça, ils savent comment c'est. En général, les plus moches, c'est même les meilleurs.
Ouais.
Oui, mais tout le monde n'a pas grandi à la campagne, tout le monde ne vit pas à la campagne.
Non, c'est vrai, vous avez raison, tout le monde n'a pas vécu à la campagne, mais on vit à l'ère où tout le monde peut se renseigner via Internet. Je veux dire, tout le monde regarde des conneries sur Internet, tout le monde peut regarder est-ce que les légumes sont bons ou s'ils sont moches.
Et puis, ça soutient les agriculteurs, c'est surtout ça le principal.
Tout à fait.
Clément,
essayez de regarder si c'est français ou pas dans les hypermarchés.
Ah bah, là, bah c'est
après,
la chasse à l'étiquette, elle est compliquée.
Il y a énormément de produits italiens.
Oui. Et parce qu'ils ont beaucoup de maraîchage aussi.
Voilà,
et ben
en fait, ça te fait drôle ici, tu dois surfer, t'as 80% Espagne et un petit bout de français quelque part.
Clément, merci. On a posé la question sur les réseaux sociaux, est-ce que pour aider les agriculteurs, vous allez acheter des fruits et des légumes moches pour les soutenir à la saison? Il y a marqué, enfin, vous dites oui à 67%. On verra si ça se traduit dans les actes, bien sûr. On se retrouve demain entre 9h et midi. Nous serons avec Emmanuel, sera toujours des nôtres. Avec Abel Bouilly, l'éducateur, avec Joël Dagosséry, la coach de vie. Mais si vous voulez continuer la discussion et le débat sur tout ce qui fait notre pays, ce qui fait notre société, Estelle Midi est là pour ça, avec l'ami Charles Magnin. Bonjour Charles.
Salut Alain, salut les GG. Et ça n'arrive pas tous les jours qu'un gouvernement s'excuse publiquement. Est-ce que c'est la honte là, ces piratages à répétition? Est-ce que l'administration est à la ramasse? Ouais, un peu quand même. Bah oui, on va se poser la question avec vous au 32-16 dans un instant. On va aussi parler des conséquences de la sécheresse, les restrictions d'eau qui se multiplient un peu partout en France, les consignes aussi. Dans le Calvados, les habitants sont invités à réduire la durée de leur douche. À Concarneau, dans le Finistère, c'est même 2 minutes maximum la douche par habitant. Voilà les consignes.
Faut pas faire 130 kilos, hein.
Ah bah, on aura ce débat. En tout cas, à midi et demi, est-ce que vous êtes prêts à prendre des douches de 2 minutes maximum pour réduire votre consommation d'eau? Et puis, faut-il interdire de fumer en terrasse? Certains restaurants l'ont déjà mise en place. La Belgique va l'interdire définitivement à partir du 1er janvier prochain.
Une atteinte à la liberté d'Emmanuel. Oui.
Alors, avec la canicule, on pouvait couper les chauffe-eau aussi et ne pas dépenser d'énergie cet été.
C'est vrai aussi. Mais revenons-en à la cigarette. Est-ce qu'il faut la bannir des terrasses?
Non, je crois pas, non.
Ah bah pourtant la santé publique dit que si. Et surtout la Belgique est passée à l'acte à partir du 1er janvier, c'est terminé. Et puis on poursuit nos tu préfères de l'été, tu préfères de saison, tu préfères les tongs ou les sandales?
C'est une bonne question,
Tongs ou sandales?
Alors moi j'ai découvert les shawls, ça ressemble aux birks, les shawls avec la semelle matelassée. D'accord. Les shawls de vieille. Et ben moi je suis fan des shawls de vieille.
Les shawls de vieille.
Tongs,
okay. Sandales.
Emmanuel, j'ai eu la chance de repasser au Brésil il y a quelques mois, j'ai fait un stock de tongs.
Et Alain, tiens, le niçois.
Écoute, je suis plutôt tongs.
Et je te donne un argument, la tongs, il faut faire un effort. La sandale, tu fais moins d'efforts.
Tu traînes les pieds.
Ouais.
Oui, mais t'as moins mal aux orteils. La tongs entre...
Ça peut faire une petite irritation.
C'est ton pied qui ramasse
les amis, tongs ou sandales, voilà. C'est au 32-16.
Oui, parlez-nous de vos chaussettes.
Ah non, ça c'est pas...
C'est au 32-16 que ça se passe. Bonne émission à Charles Magnin et à toute son équipe.